Mirabella. Dans le Haut-Rhin vivait un imprimeur, sa femme et ses deux filles. Quand elle fut presque à terme, un matin d'octobre, l'imprimeur se tourna vers sa femme qui avait le ventre rond et lui dit « Clara, va donc à l'atelier. Choisis la fonte de caractère qui te plaît le plus et écris le prénom que tu auras choisi pour notre troisième enfant, en toutes lettres, sur le composteur. » La femme s'exécuta un petit sourire aux lèvres, et le jour où elle accoucha, fut imprimé sur les faire-part le nom mélodieux de Mirabella. La famille accueillit ainsi une jolie troisième petite fille, belle, ravissante et gentille comme de l'eau de source. Mais en grandissant, Mirabella attirait de plus en plus les jalousies de ses sœurs aînées. Il ne passait pas un instant de la journée sans qu'elle ne lui joue un mauvais tour ou maugrée derrière son dos, sournoise comme des fouines, hargneuse comme des pies. Les choses ne s'arrangèrent guère à l'âge de la puberté lorsque le père engagea un fort et bel apprenti qui répondait au nom de Hans et dont les charmes allaient plus volontiers à Mirabella, désormais très belle fille, plutôt que deux grandes sœurs qui en devenaient vertes de convoitise. Car en plus d'être gracieuse et élégante, Mirabella était d'une honnêteté et d'une vertu déconcertantes. Une nuit, les deux aînés, poussés à bout par leur extrême jalousie, décidèrent de mettre fin à leur calvaire. Elles s'immiscèrent dans la chambre de leur petite sœur, la bâillonnèrent, la ligotèrent, puis l'acheminèrent jusqu'à l'atelier en prenant garde de ne pas réveiller la maisonnée. Une fois en bas, elles déchirèrent brutalement sa petite nuisette, la mettant entièrement nue, tremblante qu'elle était, sur les tomettes froides. L'une des deux sœurs attrapa alors le rouleau d'ancrage de leur père, et tandis que l'autre la maintenait fermement, elle la badigeonna des pieds jusqu'à la tête, lui appliquant avec rage une encre noire et poisseuse qui collait aussi bien ses cils que ses beaux cheveux roux. Puis elles la saisirent cruellement par la tignasse et l'emmenèrent jusqu'à la rivière pour l'y plonger. Mais l'encre, au lieu de se dissoudre, n'en finissait plus de couler du corps de la jeune fille. Elle devint sous les yeux ébahis une fontaine d'encre intarissable. La rivière devint noire. L'eau était glacée. Mirabella perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla sur les berges de la Holne, elle était frigorifiée. Quel ne fut pas son effroi lorsqu'elle aperçut son image dans l'eau, une harpie, une sorcière, noire et hideuse. Comment sa grâce avait-elle pu disparaître? Et pourquoi son corps était-il enduit d'une poisse incessante? Mirabella jeta son visage entre ses mains et pleura autant de larmes que son pauvre corps pleurait d'encre. Elle se résigna à se cacher du regard du monde jusqu'à la fin de ses jours, quitte à en mourir s'il le fallait. Elle gravit la montagne la plus haute et se terra dans la grotte la plus sordide qui puisse exister, rongée par le désarroi et l'anéantissement de sa piètre destinée. Elle vécut ainsi, terrée dans sa lugubre tanière, pendant plusieurs années, au gré des saisons et des intempéries, choyée fort heureusement par les nymphes de la Harte, qui s'occupèrent avec bienveillance de sa santé, ainsi que de sa pitance. Un beau jour, une bande de freluquets entreprit par jeu de visiter la caverne et se trouva nez à nez avec l'étrange sorcière noire, dont la seule apparition les fit hurler de terreur et déguerpir au plus vite. Ainsi la rumeur enfla dans tout le pays, comme quoi une monstruosité de femme poisseuse logeait dans l'antre de la montagne, et on spécula rapidement sur la présence d'un trésor caché dont elle serait la gardienne. Mirabella reçut alors la visite d'un aventureux commerçant dont la témérité n'avait d'égal que sa cupidité. Un homme bien bâti qui ne désirait qu'une seule chose, faire fortune aussi vite que possible. L'homme s'avança dans la pénombre de la grotte et hasarda un « Ohé, y a quelqu'un ?» Lorsqu'il alluma enfin sa torche, les yeux étincelants de larmes de Mirabella apparurent. « Il y a moi, » dit-elle d'une voix faible dans un sanglot. « Et que cachez-vous donc dans ce tombeau ? On dit qu'il y a un trésor caché dans cette tanière où vous habitez. » « Un trésor ? Certainement pas. Si je suis ici, c'est parce que mon corps ruisselle à l'infini d'une encre noire et poisseuse qui me rend laide comme la pénombre et hideuse comme les méduses de l'enfer. »« Pas de trésor, dis-tu ? De l'encre ? Dis-tu vrai ?» L'homme posa sa torche, prit une plume de son chapeau et s'approcha de la jeune femme. C'est que l'encre vaut cher de nos jours. Tu pourrais bien me faire connaître la fortune, petite harpie poisseuse. Fais donc moi voir cela. Il trempa sa plume dans la chevelure noire et ruisselante et prit sa propre main comme parchemin. J'aime la vie plus que tout, écrivit-il avec un sourire satisfait dans la paume de sa main. Mais c'est bel et bien de l'encre de Chine qui coule de ta sale tignasse harpie. Une encre noire qui devient indigo lorsqu'elle sèche. Elle se tient parfaitement à ma plume, on dirait. Mais à peine avait-il dit ces mots que la phrase qu'il venait d'écrire se transforma sur le champ. Je déteste la vie plus que moi-même. Le commerçant recula, horrifié d'un tel prodige qui rendait soudain la jeune femme terriblement inquiétante et comme dotée de pouvoirs malicieux. « Qu'as-tu fait, sorcière ? » balbutia l'homme qui lâcha sa plume. « Qu'as-tu fait ?» L'homme oublia sa torche et courut dans le noir sans demander son reste. Il cavala jusqu'au pied de la montagne, dévalant les sentiers caillouteux. Il croisa le frère Hugues Müller, moine copiste de la vallée que la récente invention de l'imprimerie avait mis au chômage depuis quelque temps. Le moine l'attrapa au vol par la manche de son veston. Hey, « Hé, que fais-tu donc ? Pauvre homme assailli par mille démons, d'où viens-tu ainsi ?» Le commerçant lui déversa en quelques soubresauts de postillons incompréhensibles le phénomène auquel il avait assisté dans la grotte et déguerpit Jean beaucoup sans même reprendre son souffle. Le moine intrigué resta pensif quelques instants. Il toisa le sommet de la montagne et se dit qu'il essaierait une ascension le lendemain matin, dès la première heure. Lorsque l'immense flambeau de notre étoile solaire commença à se faire connaître à l'heure où les volatiles en font de même, le moine Müller endossa un sac de jute dans lequel il avait empaqueté quelques objets utiles. Le copiste atteignit la grotte après quelques heures de marche ardue. Et il alluma sa torche afin d'en explorer les tréfonds. Tout comme la veille, Mirabella sursauta à l'arrivée de l'individu. « Que me voulez-vous » héla-t-elle dans la pénombre qui se dissipait à la lueur de la torche. L'homme posa son sac de jute à terre, puis approcha sa flamme du visage de la marâtre. « Il paraît que tu ruisselles d'une encre noire. » semblable à celle qui vient de Chine et qui se transforme sous les yeux de celui qui écrit. Est-ce vrai ? La jeune femme ne répondit pas, sentant toute la malveillance que cet homme pouvait lui insuffler. Eh bien, nous allons voir ça par nous-mêmes, s'exclama-t-il, sortant une plume de sa besace. Il s'approcha de la jeune femme, trempa la pointe d'acier dans sa chevelure, puis écrivit sur un monceau de parchemin. « Ce que Dieu est grand !» faisant crisser la plume à chaque arabesque. À peine finissait-il d'appliquer le point final que la phrase muta instantanément. « Dieu est le vermisseau de mes entrailles !» Stupéfait, il fit un pas en arrière, toisa la femme fontaine, revint au parchemin et entreprit une nouvelle ponction dans la chevelure de Mirabella. Cette fois-ci, il écrivit. Seule la vertu m'importe. La courbe du « e » final n'était pas achevée qu'était déjà apparue sur le papier. Le vice est mon sacerdoce. Quel miracle! Quelle magie! L'homme était ébahi. Tu peux donc faire éclore la vérité aux yeux de ceux qui voudraient l'avoir cachée à tout jamais, par la simple magie de l'encre noire de ton corps? Le moine fut saisi d'un éclat de rire empreint de frénésie diabolique. « Eh bien, ma chère, je ne sais pas d'où tu viens, ni même comment tu fais cela, mais tu viens à l'instant me faire accéder aux plus belles richesses de ce monde, à savoir tout ce qui brille, or, argent, rubis. Me voilà riche pour une palanquée de décennies. » Il sortit de son sac une paire de menottes qu'il attacha à la cheville de Mirabella, puis à un pieu rudement planté dans la roche. Après quelques coups de tenaille et de maillet, le moine copiste se libéra de ses obligations, veillant à ce que la noire sauvageonne ne puisse pas s'enfuir de sa demeure. « Quant à moi, je te retrouve très bientôt, ma jolie. » Et il s'en fut. Ainsi le moine Müller ouvrit boutique au monde entier, faisant valoir l'extraordinaire prodige qu'il avait découvert. Les curieux venaient des quatre coins du globe pour voir accomplir ces miracles, tantôt par vanité, tantôt par orgueilleuse fatuité. Mais tous ceux qui écrivaient avec l'encre de Mirabella voyaient systématiquement leurs mots changer, car tout pèlerin, ayant fait le trajet, était animé par le vice de la curiosité ou par la lubie de satisfaire une destinée cupide et vaniteuse. La rumeur du prodige se répandit comme une traînée de poudre, et le moine fit fortune en l'espace de quelques lunes. Il avait installé un comptoir, quelques flambeaux dans le corridor de la grotte, et campait là, la nuit, à l'entrée de l'antre, fusil à l'épaule. Or, un beau jour, les deux sœurs qui avaient eu vent de ce manège, et soucieuses de ne pas laisser leur cadette filer vers un destin opulent et bienheureux, car elles pensaient que le moine l'avait également prise pour épouse, décidèrent de changer le cours des choses. Au coucher du soleil, elles prirent flambeau, tenaille et maillet, et s'en furent en direction de la haute montagne. Une fois arrivées en haut, elles entrèrent dans la grotte à pas de louve, en prenant garde d'assommer le gérant profondément assoupi, et bâillonnèrent Mirabella pour ne pas entendre ses plaintes. Elles passèrent les menottes de la cheville au poignet de cette dernière et l'emmenèrent à 3 heures de marche de là, sur les contreforts de la Harte, tout en haut d'un pic rocheux surplombé par la tour en ruine d'un château oublié. L'édifice était assailli par les ronces et le lierre d'un autre temps. Là, les sœurs jetèrent leur cadette dans une fosse piquante et broussailleuse et repartirent à la hâte. Encore une fois, la bienveillance de la forêt porta secours à Mirabella. Farfadées et nymphes la guérirent de tous ses maux, la choyèrent, la nourrirent, l'abreuvèrent. Les bons esprits lui tenaient compagnie de longues heures pour converser de choses et d'autres, et parfois même, des chevaux venaient s'allonger près d'elle. Une année passa. Une belle après-midi d'avril, l'une des deux sœurs passa devant la porte de l'atelier d'imprimerie du père. Elle entendit alors la voix de ce dernier qui s'adressait à l'apprenti. Mon brave Hans! Quel dommage que nous n'ayons plus cette femme prodige dans notre vallée, tu sais, celle dont le monde entier venait observer les prodiges et dont l'encre était, paraît-il, de qualité parfaite. L'avais-tu déjà visitée? Avais-tu gravi la montagne pour attester les dires du copiste Müller? Ah, mon brave Hans, sais-tu que je t'aurais missionné sur le champ pour me ramener un échantillon de cette encre noire indigo? Hans acquiesça. Il est vrai, maître, que l'édition du Cantique des Cantiques que nous élaborons pour Monseigneur Günther mériterait des enluminures d'exception. À ces mots, la grande sœur se délecta par avance d'imaginer sa cadette découverte par celui qui avait été son prétendant avant qu'elle ne s'exile. Hans serait à même de la voir dans toute sa laideur. Et elle entra innocemment dans l'atelier. Père, je viens d'entendre votre requête et la rumeur dit qu'on l'aurait aperçue sur le pic rocheux de l'ancien château des Grunwald. Peut-être une excursion vaut-elle la peine, n'est-ce pas, Hans? Le père missionna donc l'apprenti d'aller quérir la femme à la si précieuse ancre. Les deux sœurs se réjouissaient de leur ultime cruauté envers Mirabella, qui se verrait encore une fois humiliée sous les yeux du bel apprenti. Mais lorsque celui-ci atteignit le pic rocheux et qu'il aperçut enfin, entre tours en ruine, la femme au corps enduit d'encre de Chine, il ne reconnut pas Mirabella. S'approchant poliment de la jeune femme, il la salua très courtoisement, malgré toute la crainte qu'elle lui inspirait, ôta son couvre-chef et s'agenouilla. Grande prêtresse, c'est mon maître qui m'envoie. Nous sommes imprimeurs et notre reliure requiert une encre de la plus haute qualité. Est-ce vrai que celle qui coule de ton corps est parfaite et inimitable? La jeune femme tourna timidement de la tête en guise de réponse. Vous pouvez humecter votre plume dans ma chevelure, mais évitez de me regarder, je vous en conjure. Son cœur battait comme les tambours du roi. L'homme s'exécuta, trempa sa plume dans la poisse noirâtre de sa natte et prit sa propre main comme parchemin. Il écrivit la première phrase qui lui vint à l'esprit, et pour cela, il prit tout son temps. J'aime une femme de tout mon être. Elle porte le nom de Mirabella. La dernière lettre crissa sous sa plume. À cet instant, l'encre qui s'écoulait du corps de Mirabella s'arrêta net, lui rendant toute sa beauté, sa peau laiteuse, et ses cheveux roux. Hans n'en crut pas ses yeux. Fou de joie, ils redescendirent dans la vallée. Lorsque le père apprit ce que les Garx avaient fait endurer à leur jolie petite sœur cadette, il fit tatouer sur chacune d'elles chaque méfait qu'elles avaient commis, et ce sur chaque centimètre carré de leur peau, des paupières aux orteils, allant même jusqu'aux parties non visibles de leur anatomie. Le tatoueur fut tout désigné. Qui mieux qu'un moine copiste pour une tâche semblable? Puis le père bannit les deux pimbèches et leur offrit d'aller se faire voir telles qu'elles avaient vécu. Quant à Hans et Mirabella, ils écrivirent la fin de leur jour d'une encre bleue comme l'azur. Oui, belle, rendez-vous.